Dans un examen, des gens qui ne veulent pas savoir posent des questions à des gens qui ne veulent pas répondre. De Sir Walter Alexandre Allais, 9 septembre 1861, 13 mai 1922, savant poète, auteur et anglais.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 5 juin 2021. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune.
Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Les associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Notre thème du jour, examen maintenu. Pour cela, nous recevons deux représentants du mouvement national des lycéens, Antonin Nouvian et Mathis Guérard au téléphone, un interview d'Elisa et M. Mohamed Assamti, professeur d'électronique au lycée professionnel Marie Curie de Nogent-sur-Oise. Monsieur Assamti, va se présenter avant que Sylvie nous présente le thème du mois.
Merci, donc bonjour. En fait, je suis Mohamed Assamti, professeur de génie électrique, électrotechnique, pas électronique, au lycée Marie Curie. Donc là, je travaille avec des élèves de bac pro professionnel et je suis syndiqué.
D'accord. Mathis et Antonin, moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez rejoint le mouvement national des lycéens. Qu'est-ce qui vous a poussé en fin de compte à rejoindre ce mouvement ?
Alors moi personnellement, Mathis, j'ai rejoint le mouvement national lycéen parce que j'étais dans une situation terrible où dans mon lycée on n'avait aucune information sur les modalités de passage d'examen pour le baccalauréat en 2021. Et du coup, je me suis syndiqué parce que pour moi, c'était la solution pour militer pour nos droits et pour garantir un droit à l'information, en tout cas sur les passages des épreuves pour le baccalauréat.
D'accord. Donc, tu es en terminale.
Ça fait.
Voilà. Et donc, il n'y a pas longtemps que tu as rejoint donc, le mouvement, en fin de compte.
Oui, au moins, j'ai personnellement rejoint le mouvement en début d'année, voilà.
D'accord. Alors, on va poser la même question à Antonin, qui est à côté.
J'ai rejoint le MNL depuis maintenant un bon moment. Ça doit faire depuis que je suis arrivé au lycée. Aujourd'hui, je suis en BTS. Si j'ai rejoint le MNL, c'est parce que j'ai toujours eu cette volonté, d'une part, de défendre les droits des lycéens. Moi, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé. Et puis aussi de préserver un certain modèle éducatif. Et ça m'a ouvert à pas mal de thèmes, notamment. Et sur les questions du modèle éducatif, j'ai beaucoup appris dans le syndicalisme lycéen.
Et qu'est-ce que tu entends par droit du lycéen ?
C'est considérer que le lycéen, c'est pas seulement quelqu'un qui est soumis au règlement intérieur, c'est pas seulement quelqu'un qui est là pour faire ses devoirs, c'est aussi quelqu'un qui doit s'éveiller culturellement, politiquement, qui doit apprendre et utiliser ses droits, parce qu'il en a, puisque c'est comme n'importe quel citoyen, les lycéens ont des droits. Et en ce sens-là, ils doivent apprendre à les utiliser. On ne doit pas mettre fin à l'état de droit à l'entrée des portes de nos lycées.
Et tu es tout à fait d'accord avec ça, Mohamed ?
Oui, exactement. En fait, au niveau syndical, moi, je suis syndiqué donc à la CGT. Je trouve que ils sont courageux, ces jeunes, de se syndiquer parce que ces jeunes-là, je dis toujours, c'est notre avenir. Et ils sont aussi courageux d'aller porter les revendications de leurs camarades de classe. Je peux que les encourager et je leur dirai merci d'être la relève de l'avenir, quoi.
Mais j'entendais tout à l'heure que vous cherchiez des informations. Ça veut dire que vos professeurs ne vous disent rien sur le passage d'examen, etc.
Alors, c'est le problème, c'est que nos professeurs ne sont pas au courant non plus. En fait, il y a un grand flou sur le passage des examens qui est un peu orchestré par le ministère de l'Éducation nationale, qui ne donne aucune information aux membres de l'équipe pédagogique, aux administrations des lycées, aux lycéens, aux lycéennes et aux étudiants en BTS. Donc la situation, c'est pas de la faute des professeurs et professeuses. Le problème vient du ministère de l'Éducation nationale qui a du mal à communiquer, en tout cas, sur le passage des épreuves, alors que c'est quand même dans quelques jours.
C'est dans quelques jours, tout à fait. Donc, on va peut-être commencer. Très bien, merci beaucoup. Hein. Donc, ces deux dernières années scolaires ont été perturbées avec le Covid-19. Hein. Nous savons tous que les cours ont été très chaotiques. On en a parlé déjà ensemble avec, au téléphone hein, pour préparer l'émission avec Antonin et Mathis. Hein. Entre les confinements, le distanciel qui ont entraîné une perte conséquente d'heures de cours, donc de programmes non appris. En cette fin d'année scolaire, certains jeunes sont stressés par les examens, d'autres baissent les bras, mais se posent de réelles questions sur leur devenir pour leurs études supérieures. Fallait-il reculer les épreuves à une date ultérieure, passer les épreuves en présentiel ou en épreuve contrôle continu? On va essayer de répondre à tout ça. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait de voir où en sont un peu les lycéens et les étudiants. Où en sont nos jeunes après ces deux années hein, donc, qui ont été altérées par des cours en distanciel, des programmes non étudiés. Et donc, votre mouvement national des lycéens ont mené une enquête sur l'impact du confinement sur la santé mentale des lycéens et des étudiants. Est-ce que, Antonin ou Mathis, vous pouvez nous donner un petit peu les résultats et quelles ont été les questions qui ont été posées lors de cette enquête, s'il vous plaît?
C'était une enquête de manière assez large hein, sur les conditions des lycéens pendant la période du Covid et sur certaines questions effectivement où on parlait plus précisément de la santé physique, mentale des lycéens, on a eu des résultats quand même assez alarmants. Par exemple, donc on a eu donc sur une question assez simple, hein, comment vous sentez-vous personnellement pendant cette période on a eu... Alors, donc, on a eu 6% de personnes qui se sentent très mal, 22% de personnes qui se sentent mal. C'est des chiffres inquiétants. Sur des questions plus précises comme les personnes se sentent-elles seules, là, on a des chiffres encore plus inquiétants. On a près de 30% des étudiants des lycéens qui se sentent seuls et 16,5% des lycéens qui se sentent très seuls.
Qu'est-ce que t'entends seul et très seul? Ça veut dire par rapport à quoi?
Pendant la période de crise sanitaire, se sont-ils sentis seuls? C'est-à-dire, se sont-ils sentis isolés?
C'est-à-dire, là, tu nous parles des lycéens. Alors, je suppose que certains lycéens étaient quand même avec leur famille.
Oui,
ce qui n'est pas le cas des étudiants, souvent, qui se retrouvent vraiment seuls.
C'est ça. Alors, nous, notre enquête, comment on dit déjà quand c'est une enquête? Déclarative, c'était une enquête déclarative, donc les lycéens déclarent se sentir seuls, effectivement, ils sont avec leur famille, mais il y a aussi une situation d'isolation vis-à-vis de leurs camarades et de leurs amis, qui a été aussi très difficile à vivre et dont on commence juste à sortir. Sur la question plus précisément
Sur leur avenir, je pense que tu avais posé aussi une question sur leur avenir. Ça, c'est intéressant de voir comment ils voient leur avenir, en fin de compte. Mohamed, qui a quelque chose à dire, parce que lui, avec les étudiants et les lycéens, je crois qu'il a des...
Non, en fait, je comprends Antonin, c'est ça. Donc, en fait, la difficulté qu'on a eue, parce que nous, en tant qu'enseignants, déjà nous, je partage son point de vue, nous, on n'a pas été formés pour, faire des cours à distance. Nous, on a été, moi, je dis, personnellement, j'étais choqué parce que le Covid, ça a commencé, par exemple, je prends l'Oise, ça a commencé
en février 2020.
En février 2020, ça veut dire que pendant presque toute l'année, les élèves, les lycéens, tous les élèves, donc, sont restés chez eux et isolés. Donc, il y a certains élèves qui ont décroché, d'autres qui étaient en grande souffrance, bien sûr, mentale, parce que d'une part, un élève qui vient à l'école, c'est sa deuxième famille, l'école, parce que ça lui permet de prendre un repas correctement, d'avoir ses copains, donc d'échanger, de voir ce qui se passe. Nos élèves, si vous voulez, ils étaient très, très malheureux de rester tout seuls chez eux. Donc, il y avait une souffrance. Ensuite, il y avait bien sûr l'isolement et il y avait aussi quelques élèves donc sur le lycée qui étaient en décrochage scolaire. Ça veut dire que certains élèves qui n'avaient pas d'aide.
Et qui n'avaient pas d'aide à la maison, effectivement.
À la maison, bien sûr. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Certains n'avaient pas d'accès à Internet. D'autres, ils n'avaient même que le portable pour être en contact avec leur professeur.
Avec la problématique, on connaît bien des logiciels qui ne fonctionnaient pas vraiment au niveau de l'éducation nationale aussi.
Non, c'était une pagaille.
Voilà. On ne va pas critiquer non plus parce que le ministère n'était pas prêt à ça non plus.
Exactement.
Donc, ils ont fait peut-être de leur mieux. C'est vrai qu'ils ont été peut-être un petit peu long à revoir tout ça, mais par la suite, tout ce qui a été dit en distanciel, ça a un petit peu mieux fonctionné.
Exactement.
On
ne
va pas dire que c'était l'apothéose. Hein.
La majorité des enseignants, donc par exemple, moi, j'utilisais tout, parce que je suis sur les, comment dire, les réseaux sociaux, j'utilisais tous les réseaux sociaux, c'est par possible. Exemple,
oui, bien sûr.
WhatsApp, voilà. Les SMS, les téléphones. Donc, j'ai appelé un par un pour les remettre dans le bain, donc pour leur donner quelques cours. Mais certains n'arrivaient pas à rendre les devoirs.
Hein,
parce que, vous savez, un exemple très simple, moi je critique un petit peu le conseil départemental de l'Oise. À une époque, on donnait un ordinateur à chaque élève, comment dire, au collège, ce qu'on appelait ordi 60.
Ordi 60.
Mes enfants ont eu cet ordi 60, donc ça leur permettait donc, d'être en contact avec leurs professeurs. Mais certains, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il y a des élèves, ils me disent, monsieur, j'ai rien chez moi. Mm-hmm. Même un téléphone portable, ils n'avaient pas de liaison avec l'école. Et leur rendre les devoirs, c'est encore un autre problème. Oui.
Et d'après toi, Mohamed, il y a eu beaucoup de lycéens dans ta classe, par exemple, qui ont réellement décroché?
En fait, personnellement, parce que nous, on a une matière, comment dire, qui est un peu trop demandée. Donc, quand je dis décrocher, ça veut dire que l'année dernière, ils n'ont pas eu cours. C'est ça que j'appelle décrocher.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais,
oui, mais
tu
dois bien te rendre compte, du coup, comme ils n'ont pas eu tous les cours l'année dernière, ça a recommencé cette année encore. Donc, il y a un décalage dans les programmes, automatiquement.
Exactement. Mais par contre, c'est un peu différent pour l'enseignement professionnel parce qu'on avait cette chance de travailler à un groupe de 15 élèves.
Oui.
Nous, cette année, on a travaillé presque normalement. Je parle de baccalauréat professionnel de production. Mais certains baccalauréats qui sont de service, où vous avez des classes de 30 élèves, ils étaient obligés de travailler par groupe.
C'est-à-dire
que vous avez un groupe qui se trouve chez eux et un groupe à l'école. Mmh. Mais ceux-là, dedans, vous avez certains élèves qui ont décroché, d'après les retours qu'on a au niveau syndical. Mmh. Et ils ont une année en cours en pointillé.
Donc,
ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé leur programme.
Mais donc, ils vont passer des examens.
Normalement. Voilà.
Normalement.
Et ça, c'est un scandale.
Alors, par contre, on revient un petit peu sur Antonin. Tu as trouvé un petit peu la question que je peux poser. Alors, vas-y, sur l'avenir.
D'ailleurs, sur ce que disait Mohamed, parce que j'ai trouvé pas mal de chiffres pertinents à ajouter sur l'enquête qu'on avait menée avec
Super.
Les 300 réponses. Et par exemple, sur la question du matériel, nous, sur les 1300 lycéens qui ont répondu à notre étude, à notre enquête, on a eu quand même 13,5% qui estiment ne pas avoir accès au matériel nécessaire, dont une bonne partie qui disent devoir se servir notamment de leur smartphone pour suivre les cours. Et ça, c'est proprement incompatible, en fait, avec la bonne tenue des cours.
Tout à fait.
Sur la question de Parcoursup dont on parlait tout à l'heure, j'ai pu retrouver les résultats, effectivement. Et c'est probablement l'un des chiffres les plus inquiétants qu'on ait été amené à voir. Donc, avez-vous des inquiétudes concernant votre avenir, Parcoursup, études supérieures, entrée dans le monde du travail? De manière générale, on a plus de 60% des lycéens qui ont répondu, plus de 65% des lycéens qui ont répondu avoir énormément ou beaucoup d'inquiétudes concernant leur avenir. 32% qui estiment avoir beaucoup d'inquiétudes et 35% qui estiment en avoir énormément. Donc, nous-mêmes, on pourrait relativiser ces chiffres, hein, mais là, ça me semble statistiquement...
C'est parlant.
Révélateur.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui les gêne vraiment.
Mais c'est peut-être aussi une remise en cause au niveau des filières normales. Hein. Parce que là, on sait plus trop, personne ne sait plus trop où aller et dans quelle filière se diriger aussi.
Ben, je crois que tout le monde a peur aussi de Parcoursup. Hein, on en reparlera à la fin de Parcoursup, mais c'est vrai, avant, on avait le bac, on était sûr et certain d'aller ou en université ou en fac. C'est-à-dire, il y avait des places pour tout le monde. Maintenant, avec les algorithmes, c'est beaucoup plus difficile de poursuivre ces études. Ça, on en reparlera quand même à la fin parce que c'est intéressant. Alors, moi, j'aimerais savoir pour les lycéens et les étudiants en grande difficulté, est-ce que vous, au niveau des lycéens ou étudiants, il y a eu des choses mises en place au niveau des lycées?
Nous, au niveau des lycées, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Il y a la fameuse demi-jauge qui nous a quand même enlevé pas mal de cours.
Oui.
Les mesures sanitaires ne sont pas très contraignantes, à part pour cette histoire de demi-jauge. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des cours en moins, on se retrouve à ne pas pouvoir étudier dans des conditions correctes. Et c'est vrai que c'est quand même inquiétant parce que, du coup, on se retrouve avec un programme qui n'est pas, qui est bâclé, qui est à moitié fini, On se retrouve avec des examens, on ne sait pas comment ça va vraiment se passer. Là, il y a le grand oral qui arrive dans quelques jours. Moi, j'ai mon grand oral, je ne sais toujours pas comment ça va vraiment se passer, en fait. Il y a toujours un flou sur vraiment comment l'épreuve va se terminer et les conditions de passage de l'épreuve.
Mais comment elles étaient définies, ces demi-jauges ?
Il y a beaucoup d'inégalités dans l'application de ces mesures qui ont été avancées parce que c'est à chaque établissement de s'organiser. Et on a vu tout un tas d'établissements, notamment des établissements privés, qui ont décidé de ne rien faire du tout. Et donc, qui mettent dans une position davantage leurs élèves d'un point de vue scolaire, mais qui les mettent également en danger d'un point de vue sanitaire.
Oui, parce qu'ils ont. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'eux ont fait une continuité dans le présentiel, en fin de compte, les établissements privés. C'est ça. Mmh. Ils ont eu tous leurs cours. Et eux, en plus, ils avaient peut-être le remplacement des professeurs qu'il n'y avait pas dans le public, parce qu'on sait très bien que dans les établissements publics, il y a eu beaucoup de professeurs qui n'ont pas été remplacés.
Mais ça, c'est le manque d'investissement de l'éducation nationale que les gouvernements successifs nous offrent depuis des années, malheureusement. Oui, oui. Et puis ça, c'est venu s'ajouter justement à cette période de Covid. C'est-à-dire que déjà, d'habitude, on a énormément de professeurs qui ne sont pas remplacés. Mais avec les cours en moins à cause des cours en distanciel et des professeurs qui étaient malades et des élèves qui étaient malades, effectivement, on n'a pas pu. J'ai énormément de camarades qui n'ont clairement pas pu finir leur programme.
Bah, automatiquement, les jeunes qui étaient malades du Covid, ils n'ont pas eu des cours supplémentaires, des cours de rattrapage. En fin de compte, il fallait se débrouiller, non, c'est ça ?
Ah bah oui, complètement.
Mais je reviens sur ma question. Comment étaient définies les demi-jauges ?
Alors les demi-jauges, en fait, c'était l'organisation est propre à chaque établissement. Je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont appliqué un système de un jour sur deux en fonction des filières. Donc par exemple, je sais que dans mon établissement c'est le cas, les premières et les secondes sont présents dans l'établissement le lundi, le mercredi et le vendredi, et les terminales sont présents dans l'établissement le mardi et le jeudi avec les technologiques. Et ça a fait un système de roulement où chaque semaine, on inverse le calendrier.
Le calendrier, oui.
C'est un peu compliqué.
Bien. D'accord. Il y a Mohamed qui voulait intervenir.
En fait, je confirme, par exemple, enfin, la demi-jauge, juste pour répondre. Donc, la demi-jauge, c'est très simple. Dans notre établissement, à un moment donné, c'était un exemple. Je regardais les élèves en enseignement généraux. Il y avait donc sur une classe de 30, il y a un groupe qui fait le cours une semaine, un groupe la semaine d'après. D'accord. C'est ensuite, là, si je reviens sur un point seulement qui est, c'est vrai, Antonin donc l'a soulevé, c'est le remplacement des enseignants. C'est-à-dire que vous avez les enseignants qui étaient, la majorité, enfin, ceux qui étaient malades ou ceux qui ont ce qu'on appelle des problèmes de vulnérabilité, donc ils n'ont pas été remplacés. Et je ne parle pas des élèves qui étaient cas contact ou qui étaient malades. Ceux-là, ils restaient au minimum une semaine, voire...
Un peu plus, 14 jours au départ.
Au départ,
c'était ça.
14 jours. Mm. Ils restaient 14 jours chez eux sans aucun lien avec l'établissement. Mm-hmm. Voilà. Et tous ces élèves-là, prof n'est pas remplacé, les élèves qui n'ont pas eu cours, demi-jauge. Et ceux-là, ils vont se présenter à des examens normaux dans toutes les filières. Je parle de filières générales,
technologiques et professionnelles. D'accord. Alors, donc, on voit effectivement qu'ils vont être très mal préparés au niveau des épreuves. Alors, dans certains pays, le gouvernement a préféré un report des dates d'examen ou ne faire que des épreuves en contrôle continu et non en présentiel, comme M. Blanquer le voulait. Lui, M. Blanquer a opté pour des épreuves en continu et d'autres en préférentiel avec possibilité de rattrapage. Par exemple, en Belgique, il n'y a pas d'épreuves.
C'est comme l'année dernière.
Donc, comme l'année dernière, voilà
chez
c'est ça.
Nous, tous les examens ont été faits en contrôle continu. Donc là, voilà. Et cette année, donc là, je ne comprends pas. C'est presque la même chose, à part, moi, je parle de l'enseignement professionnel au niveau des classes de production. On a presque travaillé normalement, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc les élèves qui ont travaillé normalement, c'est normal qu'ils vont passer correctement leurs examens. Mais par contre, il y avait un autre problème que établissements n'ont pas pris en compte. Vous savez, il y a un problème de motivation. Par exemple, il faut voir que certains élèves ont perdu leurs proches. Certains élèves ont toute une famille malade, donc ils étaient cas contact. Et derrière, ils étaient isolés. Mais par contre, il y a un autre problème donc de santé mentale, je dirais. Il manque de motivation. Certains élèves, quand ils reviennent après...
Après avoir passé... Bah, c'est très compliqué, effectivement.
Exactement, de reprendre.
Alors, le gouvernement n'avait pas mis en place des séances de psychologie pour certains élèves ?
Ça, c'est ce qu'on dit au niveau national, mais
oui,
en
voilà.
pratique,
il n'y
a rien. Donc D'accord. nous, par exemple, je prends un exemple très simple. Vous savez, les tests salivaires qu'on nous a promis par le ministère,
ils
on ne les a jamais
eus.
Non, je ne parle pas encore d'autres tests. Ensuite, il y avait un problème sur deux points essentiels dans l'établissement scolaire, parce que nous, on les a soulevés. Si, c'est le problème du cantine, là où il y a le brassage de la des jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et bien sûr dans les couloirs, et dans les cours d'éducation physique et sport. Voilà. Donc, et ça, les profs ne peuvent pas faire autrement. Et c'est là que je pense que la majorité des jeunes ont été malades. Et dernièrement, je pense que dans certains établissements, actuellement, il y a des élèves malades et que certaines classes sont arrêtées.
Oui.
Même au lycée Marie Curie.
Oui,
on m'a parlé de trois classes arrêtées.
Trois classes, voilà. D'accord. C'est pareil, moi j'ai une question qui me vient là. Au niveau sanitaire, quel va être ou quel est le protocole mis en place pour les épreuves qui vont arriver en présentiel? Vous avez des renseignements là-dessus, Antonin ou Mathis?
Alors, c'est assez fou, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on imagine que ça va être un peu le même protocole sanitaire qu'on a actuellement dans les classes, c'est-à-dire aération des classes et puis potentiellement des tables écartées pour éviter, et puis bien sûr un sens de circulation unique. On pense que ça va être ça, mais après on n'est pas encore sûr vraiment, il n'y a pas eu de protocole sanitaire spécifique qui a été sorti par rapport aux examens. Et pour le grand oral, c'est un peu le flou parce que les professeurs ne savent même pas comment ça se passe si un élève est suspecté d'avoir le Covid. Comment on fait pour le grand oral? Est-ce qu'il passe quand même? Est-ce qu'on prend le risque de le faire passer le candidat même s'il a des suspicions de cas de Covid? En fait, c'est le grand flou sur le passage des épreuves et sur le passage et sur les contrôles sanitaires pour le passage des épreuves.
Sachant qu'on a interpellé à plusieurs reprises le ministère. Hein, et
là, c'est Mathis.
Et on n'a jamais eu de réponse concrète ou de discussion avec eux sur, justement, ces protections et ces protocoles sanitaires.
D'accord. Alors c'est vrai, on peut voir, là, en plus, ça va bientôt commencer. Bon, il y a déjà eu des épreuves qui ont été faites. On va parler du brevet très rapidement. Le brevet, c'est le 28 et 29 juin. On a les CAP qui vont avoir des épreuves le 7 juin, le 8 juin. Et donc, ça, c'est un petit peu... ça va venir vite. Donc, il va falloir donner des renseignements, je pense, aux élèves et aux professeurs. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur le CAP Pro, Mohamed?
En fait, je me suis renseigné un petit peu parce que moi, je ne les ai pas. Nous, au lycée Marie Curie, on n'a pas de CAP, mais on les a dans les autres établissements, par exemple à Malraux et puis à Jules-Hury. Certains CAP, par exemple, je prends les CAP Petite Enfance, qui marchent très bien. Tout ça, c'est... tous les examens sont CCF. Donc, tout en
qu'est-ce que ça veut dire CCF?
Contrôle en cours de formation. Contrôle en cours de formation. Et certains CAP, par exemple ici, j'ai CAP qui ont en ponctuel, ils passent à peu près presque les mêmes matières que les bacs. Ils passent français, prévention, santé, environnement, mathématiques, physique, chimie. Donc pour certains CAP, ils le passent normalement. Mmh. Et puis c'est la première fois dans la réforme de Blanquer, c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Mais par contre, ça aussi, c'est un problème parce qu'ils vont passer l'oral de chef-d'œuvre parce que ça leur permettra donc d'avoir des notes. Et le problème avec ça, c'est que l'année dernière, parce qu'un chef-d'œuvre, c'est sur 2 ans, il y a CAP, première année, ils n'avaient pas cours l'année dernière. Donc, ils ont cours que cette année. Donc, le ministère maintient le passage de chef-d'œuvre.
Bon, je pense qu'ils vont être un petit peu moins exigeants, peut-être aussi.
Il y a un pourcentage
aussi
sur les notes, je crois, qui est réduit.
Oui, c'est ça.
Voilà,
le coefficient sur les notes est réduit.
À peu près à 50%.
Voilà, c'est voilà. Ça. Mm-hmm.
D'accord. On va peut-être parler du bac général. Hein. Donc, on va voir que le bac général est technologique. Les épreuves de philo et le grand oral sont donc prévues en présentiel du 17 juin au 2 juillet. Et bon nombre de lycéens pensent ne pas être préparés pour le grand moral avant...
Le grand moral, le grand oral.
Le grand oral, pardon, oui. Bah ouais, on a parlé moral, qu'ils n'avaient pas le moral. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Aussi ça.
Voilà. Alors avant d'écouter, parce que Gérard a interviewé Elisa, donc avant d'écouter Elisa, je voudrais que Mathis et donc Antonin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette épreuve de philo et de grand oral?
Cette épreuve de grand oral, il est vrai qu'on n'a pas été assez préparé dessus. Hein.
Alors attention, parce qu'il faut dire que le grand oral, c'est la première année.
Mais tout à fait. Nous, on est, en fait, on est, moi, je, personnellement, je suis là un peu l'année test. Hein. J'étais le cobaye de Blanquer et puis de la réforme aussi de Jade Vallaud-Belkacem pour la réforme des collèges. Donc, c'est vrai qu'on est un peu, on est un peu des cobayes. Mais c'est vrai que le grand oral, on a été très peu préparé. Et dès le début, il n'y a jamais eu d'informations très claires là-dessus. Enfin, c'est quand même inquiétant parce que les professeurs ont été quand même au courant des conditions de passage d'épreuve et qu'est-ce que c'est vraiment le grand oral qu'au second trimestre. Ce qui est quand même un peu inquiétant pour le passage des épreuves. Puis nous, on n'a pas été assez préparé parce qu'on a eu des temps en cours en moins et du coup, nos professeurs de spécialité n'ont pas pu nous préparer comme il faut pour le grand oral. Et pour l'épreuve de philosophie, alors ils nous ont fait du bricolage.
Du bricolage?
Ah oui, ben en nous permettant en fait, en comptant la note, enfin la moyenne de l'année scolaire de philosophie, que si en fait notre note qu'on a à l'examen est inférieure à celle-ci, ben, c'est du bricolage de dernière minute et au final, enfin, on ne comprend pas quel est l'intérêt de passer ces épreuves finalement, puisque au final, on sait très bien que ça va être au niveau sanitaire, on sait très bien que ça va être compliqué de faire passer ces épreuves dans des grandes salles où il y aura une quantité d'élèves quand même assez démesurée par rapport à une classe classique.
Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, parce que c'est d'un compliqué, les options bac seront en contrôle continu et ça, donc ça va représenter que 10% de la note finale en fin de compte.
Oui, c'est à peu près ça, oui.
Voilà, alors contrôle continu, il y a l'histoire géo, les langues vivantes, l'éducation physique, l'enseignement scientifique pour le bac général et les maths pour le bac technologique en fin de compte. Donc c'est vrai, c'est un petit peu compliqué, on est complètement perdu. On va écouter, c'est l'interview d'Elisa.
Eh bien, bonjour Elisa.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui préoccupe les jeunes, le baccalauréat.
D'accord.
Donc, avant de commencer, peux-tu nous dire comment se sont passés les cours depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui avec le Covid ?
Alors, les cours se sont passés de septembre jusqu'à octobre en présentiel, donc avec toutes les classes, de la seconde jusqu'à la terminale. Et depuis le mois de novembre, donc on est passé en présentiel. Donc, au début, c'était seulement les premières technologiques et les terminales technologiques, particulièrement les STMG qui étaient en demi-jauge. Et après, je crois, à partir du mois de mars-avril, les généraux sont passés en demi-jauge, à part les classes de STI 2D qui sont en présentiel tout le temps, les premières et les terminales. Pour moi, le présentiel, c'est ce que je préférais. Parce qu'on avance plus vite dans les cours, on est moins stressé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être, en tout cas moi c'est mon cas, je suis très scolaire, donc je préfère travailler avec les professeurs en classe, dans un environnement scolaire quoi, que la demi-jauge c'est quelque chose de stressant, on n'avance pas dans le programme, les professeurs sont tout aussi perdus que nous. Donc,
c'est-à-dire ils sont complètement perdus, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors ils sont perdus, ils n'arrivent pas à avancer dans leur programme, les contrôles, les notes, c'est compliqué pour eux, donc les professeurs essayent un maximum de s'arranger pour finir le programme et pour qu'on soit tous
au même niveau
parce qu'on est avec des groupes où on a entamé des chapitres que d'autres n'ont pas fait, donc ils essayent de faire leur maximum.
D'accord, et point de vue révision, comment ça se passe?
Pour le baccalauréat ?
Oui.
Alors, pour la philosophie, ça se passe plutôt bien pour moi. On travaille les axes qu'on doit travailler en cours. Pour les révisions, je sais qu'il y a deux jours, le 13 et 14 juin, pour les révisions de la philo au lycée. Et par contre, pour le grand oral, je dirais que c'est plus une catastrophe.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que nous devions commencer, par exemple, les études approfondies des deux problématiques à partir du mois de novembre. Nous n'avons commencé seulement qu'en mars. Donc, nous avons presque...
2 mois.
Voilà, presque 2-3 mois pour faire deux problématiques, s'entraîner à l'oral, montrer tout ça au professeur. Et pour moi, ça a été chaotique.
Et comment ça se passe, l'oral ?
Alors,
L'épreuve d'oral.
Alors, on doit choisir une organisation qui est en corrélation avec notre métier plus tard, notre parcours professionnel. Ensuite, nous devons trouver deux problématiques, faire une étude approfondie, donc intro, deux parties, conclusion. Et ensuite, on doit travailler sur nos études juste après le bac. Il y a 20 minutes de préparation avec le jury. On a commencé seulement les études approfondies à partir de mars, alors que là, on devrait absolument travailler l'oral. On a fait tout ça en 3 mois, vite fait, avec en plus la demi-jauge, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est.
Mais c'est toi qui choisis un peu le sujet ou comment sont...
Alors, les deux problématiques, on les choisit, mais il faut qu'elles soient en rapport avec notre programme de management, en tout cas pour les STMG, en programme de management et d'économie droit aussi. Donc,
est-ce que tu prépares ? Tu le prépares avec un professeur ou tu le prépares seul ?
Alors, faut le faire... Le professeur peut nous aider s'il y a des fautes, etc. Mais en général, oui, il faut le préparer tout seul. Mais tout seul, c'est un peu compliqué, surtout avec le Covid, avec les demi-jauges. Donc moi, je sais que toute seule, je m'en sors plutôt bien. Après, les professeurs, ça dépend des professeurs, comment ils sont, s'ils sont indulgents, exigeants. C'est un peu...
Oui, mais à t'entendre, franchement, on pense que tu n'auras pas tellement de problèmes à l'oral.
Alors moi, l'oral, sans aucune prétention, je m'en sors plutôt bien pour m'exprimer. Mais pour les problématiques, peut-être que ce sera plus difficile. Moi, je sais que ma deuxième problématique, elle est moins bien réussie que la première, par exemple. Donc j'espère juste passer sur la première problématique pour le jour de l'oral.
Et il n'y a pas eu d'essai comme ça, non ? Il n'y a pas eu le temps d'essayer de faire des oraux, entre guillemets, bidons ?
Alors, si, on a commencé à s'entraîner, mais il y en a qui sont encore sur leur étude approfondie parce qu'ils veulent, faire quelque chose de correct pour passer le jour de l'épreuve.
Et comment tu sens, toi, là, aujourd'hui, la fin de ce bac ?
Comment je le sens ? Je le sens un peu bizarrement, parce que c'est pas une année comme les autres. On n'a pas été assez préparé, on est très très angoissé, très stressé, on ne sait pas comment ça va être plus tard. Moi, je sais que pendant le confinement d'avril, sachant que je suis déléguée de classe, j'ai des camarades de classe qui m'ont envoyé des messages en pleurs, en me disant « Elisa, j'y arrive pas, Elisa, j'ai peur, il faut que tu parles au prof, le bac, je le sens pas, on n'est pas préparé. » Moi, en tout cas, je sais que pour ma part, je suis quelqu'un qui stresse vite, donc j'angoisse pour le bac, j'ai peur de pas l'avoir. Donc oui, cette année, elle est bizarre. Et après, je sais que y a beaucoup de professeurs et de... Alors, c'est passé aussi au journal ce midi que le jury va faire preuve avec un minimum d'indulgence et de bienveillance auprès des élèves pour leur donner au moins une bonne note, parce qu'après cette année de Covid...
Mais tu n'as pas peur qu'on te dise « t'as eu le bac Covid » De manière que, bon, on a donné un peu le bac un peu à tout le monde.
Alors, si j'avais été étudiante lycéenne qui avait passé le baccalauréat en 2020, oui, parce qu'effectivement, le bac 2020 a effectivement été donné. Mais par contre, le bac 2021, non, parce que nous sommes, en tout cas nous les 2003, avec la réforme du baccalauréat, nous passons la toute première fois le nouveau bac. Donc en plus d'être des cobayes, on a le Covid qui se rajoute, donc c'est encore pire. Donc moi, non, je n'ai pas peur qu'on me dise ça, parce que je saurais à peu près sortir les arguments pour défendre l'obtention de mon baccalauréat.
Et tu préfères passer toutes les épreuves ou avoir un suivi annuel ?
Un suivi annuel, vous entendez, par contrôle continu ?
Oui, de prendre toutes les notes que tu as eues dans l'année pour dire, bon voilà, tu as telle note dans telle matière, au lieu de passer une épreuve à la fin pour le bac.
Je préfère avoir le contrôle continu.
Contrôle continu, oui. D'accord. Bon, on va parler maintenant d'un petit souci pour tout le monde, Parcoursup.
Parcoursup, alors, sujet très
galère
stressant.
Ou pas ?
Alors, pour moi, non. Les résultats sont sortis le 27 mai. J'ai été en liste d'attente pendant 4 jours, 4-5 jours, sur le vœu que je voulais être, donc au lycée Jean Monnet, qui fait le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. J'ai été 14e, je suis passée 11e, 9e, 4e, et hier matin, j'ai été admise. Donc, y a des gens qui sont encore en liste d'attente, d'autres qui sont refusés, mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'être admise dans le vœu premier que je voulais être hier matin.
Ah oui, c'est quand même de la chance.
Oui.
Et parmi tes collègues et tes amis, comment c'est ? T'en connais qui ont vraiment la galère ?
Alors, j'ai une copine qui vient d'être admise dans l'université qu'elle voulait être, d'autres qui sont toujours en liste d'attente. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes beaucoup de personnes dans ma classe qui ont fait du hors Parcoursup, donc qui ont passé des concours, des entretiens, qui ont été pris, d'autres non, d'autres qui sont toujours en liste d'attente. Mais en tout cas, moi, j'ai une copine qui a été prise dans son université ce matin à Amiens. Voilà.
Et là, pour conclure, comment tu vois un peu l'avenir
diront des collégiens qui vont de seconde, qui vont arriver en première et puis qui doivent choisir. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire par rapport au Covid, par rapport aux
réformes?
Non,
non, pas du tout au Covid, mais par rapport maintenant à la, comment dirais-je, à la nouvelle ligne, le sujet que vous devez prendre dès la troisième.
Ah bah... la troisième, après, on change tous de voie professionnelle entre-temps. Moi, je sais que j'ai eu de la chance en troisième de savoir ce que je voulais faire. Après, je sais qu'au dernier moment, il y a beaucoup de gens qui changent tout de suite de voie. Après, je sais pas, c'est toujours cas par cas. On sait pas comment... Je sais pas. Après, franchement, je saurais pas répondre à cette question.
T'as un petit frère?
Oui.
Oui. Et lui, comment il voit l'avenir?
Comment il voit l'avenir? Bah, c'est quelqu'un qui, c'est mon petit frère, c'est un excellent élève, il travaille très bien à l'école, donc moi je me fais pas du tout de soucis pour lui, donc...
Mais bon. Il s'est intéressé pour voir comment tu prépares le bac, comment ça se passe pour Parcoursup, pas du tout?
Oh non, pas du tout.
Pour l'instant, il est indifférent.
Oui, voilà, il est indifférent, je sais qu'il s'ouvrira, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit aussi, donc il saura s'intéresser plus tard, j'en suis sûre.
Eh bien, écoute, Elisa, je te remercie beaucoup.
Bah, merci à vous.
Et puis, bonne réussite.
Merci beaucoup.
Donc voilà, donc c'était donc Elisa. Donc on voit bien que pour l'épreuve de philo qui a lieu depuis des années, ça pose pas de problème ni pour les révisions, ni pour mettre l'épreuve, faire des révisions dans son lycée. On voit que c'est plus compliqué pour le grand oral. Mathis, tu passes aussi le grand oral. Est-ce que tu trouves que tu as les mêmes soucis qu'Elisa ou pas?
Ah mais tout à fait, effectivement, je passe le grand oral d'ailleurs le 22 juin, donc je fais partie des premiers dans mon lycée à passer à l'épreuve.
Oui.
Mais c'est vrai que nous, on a eu très peu de temps de préparation en classe, on devait préparer dès le début de l'année scolaire, et là on se retrouve à travailler sur le grand oral depuis maintenant un mois vraiment. Enfin, ça fait vraiment un mois qu'on travaille vraiment dessus. Avant, on bossait pas du tout dessus, et du coup, c'est vrai que c'est un peu le fin. Moi, ça a été personnellement, mais certains, c'est vrai que ça a été très compliqué.
Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais selon les lycées, là, on voit donc Elisa, elle a commencé à travailler dessus en mars. Donc très peu, et puis moi effectivement ça s'accélère quand même. Et toi, tu as travaillé vraiment dessus depuis seulement un mois?
Oui, mais c'est ça le problème aussi, c'est que vu que c'est une épreuve où c'est les lycées et puis les professeurs, surtout les lycées qui décident de quand on commence à travailler dessus, en fait ça dépend des lycées, donc c'est aussi une épreuve inégale, puisque d'un lycée à un autre, on n'a pas le même temps de préparation pour l'épreuve, on n'a pas les mêmes dates pour les épreuves, donc au final oui, c'est un peu compliqué. Moi je sais qu'il y a des personnes dans mon lycée et puis même dans mon département qui ont dû rendre leurs problématiques hier, et qui ne savaient toujours pas leurs problématiques et qu'ils ont trouvé à la va-vite parce qu'ils n'ont pas été assez préparés.
Oui, parce que alors en plus, si j'ai bien compris, les deux problématiques doivent être en rapport avec les études supérieures que vous voulez faire en fin de compte.
Alors il est vivement conseillé, en tout cas par nos professeurs, de mettre un lien entre nos deux problématiques et notre projet d'orientation. Où ça peut être vraiment une problématique qui nous plaît vraiment, mais il est très vivement conseillé en tout cas de faire un lien entre notre projet d'orientation et la question que nous avons choisie pour notre spécialité.
D'accord. Tu as quelque chose à rajouter, Mohamed, sur
là-dessus? Non, non, moi, si vous voulez que je vous parle des examens de baccalauréat professionnel, et moi, j'ai des exemples concrets. Les élèves de l'enseignement professionnel, donc, ils vont passer les examens comme une année normale. Et là, ils vont passer la majorité de leurs examens, c'est en CCF, c'est contrôle en cours de formation. Ce qu'on appelle les enseignements professionnels et les enseignements généraux, c'est français, histoire et enseignement moral et civique.
Le 16 juin.
Le 16 juin et le 17 juin, je crois.
Le 17 juin.
Le 17 juin. Mais par contre, si j'ai un peu plus de temps, je peux prendre un exemple.
On le verra peut-être après. On va juste rappeler donc, les épreuves 16 juin, français, histoire, géo, enseignement moral et civique. Voilà. 17 juin, prévention, santé, environnement, économie, droit, économie, gestion. Et l'épreuve du 18 juin, art appliqué et culture artistique. Pour l'instant, on va écouter un petit peu une musique pour nous déstresser.
Coronavirus, connard de virus.
remarqué, un jour le Chine, retourne-y quand il confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je me cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être planté chez moi, je veux voir le monde comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Mais le pire, c'est que ces salauds, ils vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes le désespoir. Même pas un petit restaurant fermé pour cause de confinement. Faire la queue avec ses blaireaux pour un pauvre menu McDo. Les caissières de l'Intermarché en ont ras-le-bol, et je les comprends. Elles sont masquées toute la journée grâce à leur salaire, parlons-en. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. Quand je pense au brave docteur Raoult, qu'on chiait par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités, qui ont les moules de perdre du blé. Je me dis que monsieur de Stoblasi dit pas toujours que des conneries. Mais ce monde est plein de voyous qui voient le mal un peu partout. Moi je m'en fous, je suis immunisé, j'ai des anticorps par milliers. J'ai aussi des anticons, faut dire qu'en France ils sont légion. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. Heureusement, en ces temps malsains, tu as épargné les gamins. Tu n'as pas touché aux enfants, ces petits êtres innocents. Sont plus séchés l'école un peu, et vivre des moments joyeux. Sans les copains, sans les potos, avec leur console Nintendo. Pas donc salaud, virus enfin, chez nos amis américains. La raison de notre maladie, c'est Donald Trump et sa connerie. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus, coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. De virus.
Notre thème du jour, examen maintenu. Pour cela, nous recevons deux représentants de Mouvement National des Lycéens, Antonin Nouvian et Mathis Guéraz, un interview d'Elisa et M. Mohamed Assamti, professeur d'électrotechnique au lycée professionnel Marie Curie de Nogent-sur-Oise, qui va nous donner quelques exemples.
Voilà, en fait, je parle de ce qu'on appelle les examens ponctuels des bacs pro-professionnels. Il faut savoir que la majorité des examens sont CCF, c'est contrôle en cours de formation, et il reste les matières générales. Ils vont passer le français, l'histoire géo, et puis prévention, santé, environnement, et droit, économie, gestion. En fait, dans d'autres établissements, ils passent aussi l'art, mais nous, si vous voulez l'art appliqué, c'est passé en CCF. Donc, je prends un exemple pour que les gens comprennent bien. Prenons un élève qui a, par exemple, eu 14 en français avec coefficient 2,5, 8 en histoire géo avec un coefficient de 2,5, 12 en prévention santé environnement avec un coefficient 1 et 11 en économie donc, et droit et économie gestion, il obtient 11. Et la meilleure note qu'il a, c'est 14 et 12, avec coefficient 2,5 en français et coefficient 1 pour la PSE. Donc,
c'est quoi la PSE?
C'est prévention santé environnement.
Ah, d'accord, voilà. Oui, voilà. Okay.
Donc, moyenne pondérée, ils prennent la meilleure note, ils font le calcul de la moyenne. Donc, ça veut dire qu'ils font 14 multiplié par 2,5 plus 12 divisé par les deux coefficients. Ils obtiennent 13,43. Donc, la moyenne de l'élève revient à avoir, donc je reprends, la meilleure note, c'est français 14. 13,43, la moyenne pondérée à la place de 8. Voilà. Et ensuite, une histoire géo. Et en prévention santé environnement, 12. Et en économie gestion, qui est là, donc c'est une note de 11, il va avoir 13,43, ça veut dire la note pondérée. Mais il y a un inconvénient pour ça, c'est que l'élève, si jamais il décide en cas d'échec en bac pro de retenir les notes, on revient aux anciennes notes, ça veut dire qu'il va garder 14 en français, 8 en histoire géo et 12 en PSE et puis 11 en économie gestion. Voilà donc le calcul qui est fait par l'Éducation nationale.
C'est très compliqué en fin de compte. Hein. Pourquoi faire simple voilà. Mais c'est vrai, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on va les faire passer 4 épreuves, mais on va garder que 2 meilleurs résultats qui seront retenus. Donc, c'est-à-dire que les 2 autres épreuves qu'ils auront passées vont être complètement neutralisées. Donc ma question était pourquoi leur faire passer 4 épreuves si on ne retient que deux notes sur les épreuves. Et donc les élèves, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de compte?
Justement, certains de mes élèves m'ont dit, monsieur, dans ce cas-là, on va réviser que 2 épreuves.
Mais bien sûr.
Donc ça veut dire que eux, les élèves sont malins, ils s'adaptent. Donc ils vont dire, je revise deux épreuves, donc ils vont avoir la meilleure note là-dedans, mais ils vont regarder le reste. Mmh. Mais par contre, moi, je les mets en garde au cas où ils échouent. Ça veut dire qu'ils vont garder les mêmes notes qu'ils ont obtenues à l'écrit. Voilà.
Mmh. D'accord. Alors par contre, si donc en bac professionnel, ils font des stages, il va quand même y avoir une dérogation si le stage n'a pas été réalisé entièrement. Hein. Donc ça va être vu au cas par cas. Par un jury.
Exactement. Donc là, avant de parler de validation des stages, il faut savoir, je parle un petit peu des conditions de stage. Parce que l'année dernière, par exemple, les élèves n'ont pas eu de stage depuis le mois de février. Ça veut dire que certains élèves qui devraient avoir 22 semaines de stage sur 3 ans, et ils ont perdu en moyenne, je parle par exemple des secondes, ils ont perdu 6 semaines de stage en seconde l'année dernière. Et les premières terminales, ils ont perdu en moyenne 4 semaines, voire 5 semaines de stage. Mais quand on a été donc plutôt les syndicats ont été reçus par le ministère pour essayer de valider les stages. Donc au lieu de dire que l'élève, pour avoir un bac pro, doit avoir 22 semaines de stage, ils sont descendus jusqu'à 14 semaines de stage. Mmh. Donc pour valider l'année dernière. Pour cette année, je pense que ça va être la même chose puisque comme certains qui étaient l'année dernière en seconde et en première, cette année vont passer le bac, voire ils sont premières. Il y a toujours
ce problème de sous-stage.
Exactement.
Alors effectivement, le fait de n'avoir pas effectué les stages au complet, donc certains élèves vont manquer de compétences manuelles.
Exactement.
Mais ça va donner quoi s'ils suivent les études supérieures et il risque d'y avoir des petits soucis en fin de compte?
Nous, en bac pro, on appelle ça période de formation au milieu professionnel. Si vous voulez, il y a certaines compétences qui doivent valider en entreprise. Malheureusement, avec le Covid, vous savez, Covid, crise sanitaire, il y a une crise économique. Crise économique, certaines entreprises ont eu du mal à recruter nos jeunes. Il y a pas longtemps, un pauvre, il a galéré pour trouver un stage. La majorité des entreprises, certains jouent le jeu parce qu'ils disent que les jeunes sont en difficulté, mais d'autres, ils me disent, monsieur Assanti, on ne peut pas prendre votre stagiaire parce que, d'une part, j'ai pas d'activité, et d'autre part, ils sont mineurs. Et ça, avec le Covid, qu'est-ce qui va se passer au cas de contamination? Voilà. Et d'autre part, bien sûr, Quand vous avez parlé de validation de compétences, certains n'ont pas validé toutes leurs compétences.
Voilà, je pense que ça posera problème. Là, on va essayer de parler un petit peu du BTS parce que, effectivement, moi, j'ai vu passer du Mouvement national des lycéens en lien avec la FCPE, etc. Beaucoup d'articles de presse concernant justement la demande pour les BTS de faire un peu comme le bac, c'est-à-dire passer les épreuves en continu. Moi je voudrais savoir, il y a eu des demandes donc incessantes, vraiment des fédérations de parents d'élèves, des syndicats, etc.
Des collectifs de BTS,
étudiants. Tout à fait. Et justement, moi, je voulais savoir, parce que ça a été rejeté, votre demande à tous, ça a été rejeté par le Conseil d'État le 30 avril dernier. Est-ce que vous comprenez cette décision, en fin de compte, surtout vous, les lycéens et étudiants?
D'un point de vue juridique, je suppose que le Conseil d'État a fait ce qui lui a semblé être compatible avec l'état du droit, mais d'un point de vue politique, en tout cas, pour nous, clairement, on estime qu'il y a une mise en danger des élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas préparés. On n'est pas préparé à ces examens de BTS, on n'est pas préparé. Donc, on estime que même si le Conseil d'État, dans son travail de droit, a peut-être fait simplement ce qu'il devait faire, en tout cas, il y a clairement de la part du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur, un mépris et une non-réponse aux attentes des BTS, alors que manifestement, ces demandes, elles faisaient consensus dans la communauté éducative. Qu'on était d'accord avec les parents d'élèves, avec les professeurs, avec les élèves de BTS, pour dire tous que effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas et que sur le contrôle continu, il y avait une piste à envisager.
Mais vous avez été reçu au niveau des syndicats, des lycéens ou des étudiants, vous avez été reçu par M. Blanquer ou pas?
Sur les baccalauréats, on n'avait pas été reçu du tout. Sur les BTS, il y a eu effectivement, je crois, une personne d'un collectif de BTS qui a été reçue, dont on n'a pas forcément eu tous les retours, et malheureusement, qui n'a pas abouti. Donc, il n'y a clairement pas eu une recherche de consensus de la part du ministère, mais plutôt d'une volonté de court-circuiter et de ne pas faire avancer les choses, à notre sens.
D'accord. Mais c'est vrai que, dans certains... médias où sont passés les jeunes, c'est vrai que vous étiez assez remonté contre la décision de l'Éducation nationale de ne pas vous écouter et puis de continuer les épreuves pour tout ce qui est BTS en présentiel.
C'est ça, puis pas seulement pour les BTS. De manière générale, on a mené un front commun entre lycéens généraux, lycéens professionnels et BTS, où on a lancé un mouvement de mobilisation dans les lycées qui a été plutôt bien suivi pour une fin d'année, et ce qui plus est avant les examens. Et à part pour les lycéens généraux où on a eu un début de réponse effectivement, pour les lycéens professionnels et pour les BTS, on n'a rien eu quasiment. Pour les BTS, on a tout juste eu le droit à des épreuves de rattrapage, et c'est quand même dingue que les épreuves de rattrapage, on ait eu à les gagner.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un rattrapage qui va avoir lieu, ça va être des sessions exceptionnelles sur deux épreuves orales. Et donc c'est à l'étudiant de choisir les disciplines dont le coefficient est le plus élevé de sa spécialité pour essayer effectivement d'obtenir le plus de points pour avoir le diplôme. Et les notes viendront remplacer les notes donc les plus mauvaises. Pour vous, est-ce un réel rattrapage ou pas?
Oui, mais de toute façon, c'est un rattrapage comme relativement similaire à ce qui se fait pour le baccalauréat. Donc, dans la mesure où ce rattrapage semble effectivement... Après, ce rattrapage, il répond pas à la question sanitaire. C'est pas un vrai rattrapage au sens où si l'élève a raté un certain nombre d'épreuves, justement, il va pas pouvoir toutes les repasser.
Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu au départ avec... à cause du Covid, effectivement, les cours en distanciel, effectivement, les programmes ne sont pas réellement terminés, effectivement. Alors moi, j'avais une question aussi qui m'étonnait parce que on avait des élèves de Montataire qui ont été passés des épreuves à Noyon. Et donc sur Amiens aussi. Moi, je me pose toujours cette question, comment ça se fait que ces épreuves sont toujours très éloignées du lycée d'affectation? Ça, c'est pareil, c'est un peu stupide quelque part, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que, c'est assez... Nous, on trouve que c'est quand même assez casse-caillant en termes d'organisation pour les examens. Les centres d'examen, on pourrait les mettre dans les lycées, d'ailleurs dans tous les lycées où il y a des classes de BTS, mais ça se fait pas, étonnamment, et parfois on déplace des populations d'élèves de BTS et on les réunit tous dans des grands, dans des grandes salles, dans des très grandes salles. On a l'impression que là, l'objectif, c'est presque de favoriser la transmission du virus avec ce genre de pratiques organisationnelles.
Oui, moi je vois ce que tu veux dire. Par contre... Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez la date de rattrapage? Est-ce que vous l'avez maintenant? Ou toujours pas? Il n'y a toujours pas des dates d'annoncées par le ministère?
Malheureusement, on a peut-être mal cherché, mais en tout cas, il y a une mauvaise communication de la part du ministère. Enfin, ce qui me semble plus probable, c'est qu'il y ait une mauvaise communication de la part du ministère, parce que malgré nos efforts, on n'arrive pas à s'en savoir toujours. Mais d'ailleurs, pas que sur les épreuves de rattrapage.
Mais c'est pareil, il va y avoir des accompagnements spécifiques ou des séances de travail qui vont avoir lieu pour justement accompagner les jeunes pour se préparer à ce rattrapage. Il y a le ministère qui encourage les organismes privés de formation à mettre en place des dispositifs d'accompagnement similaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire peut-être parler là-dessus Mohamed et puis après on reprendra Antonin et Mathis. Est-ce normal pour toi, Mohamed, que le ministère encourage, en fin de compte, ces organismes privés de formation à mettre en place certains dispositifs pour aider les élèves?
C'est deux
choses différentes, quand même.
Le privé et le public, oui.
Voilà, tout à fait.
En fait, un exemple très simple, ce qu'on appelle les validations des acquis d'expérience, en général, le ministère et la région les fait faire par des organismes privés. Ça, c'est un exemple de des élèves qui ratent ou ils repassent une année scolaire derrière.
Un peu comme Proméo et tout ça, pour ne pas faire de publicité,
exactement.
Mais voilà.
Mais en fait, si vous voulez, maintenant, c'est ce qu'on veut, surtout en enseignement professionnel, parce que c'est spécifique à l'enseignement professionnel. Maintenant, on met en avance l'alternance pour l'avenir, ça veut dire les formations supérieures par apprentissage. Ça peut être intéressant pour certains élèves, mais comme il y a une certaine discrimination vis-à-vis des élèves issus de certains quartiers, ces établissements scolaires ne prennent pas tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, moi personnellement, je dis toujours en face, même au conseil d'administration, que je défends toujours l'enseignement public, parce que l'enseignement public, ça t'adresse à tout le monde. Par contre, malheureusement, là j'ai dévié peut-être par rapport à la question, mais c'est l'esprit actuellement, c'est on essaye de rendre l'éducation comme une marchandise. Comme on l'a vu sur la santé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la santé? Une crise sanitaire sans précédent. Quand on a commencé à chercher où se trouvent les masques, où se trouvent les lits, les respirateurs, et ainsi de suite, on se retrouve sans rien. Mais l'éducation, on va vers la même chose. C'est-à-dire que si l'État veut le rendre une marchandise, c'est-à-dire que vous avez certains établissements privés qui vont essayer de prendre les choses dans lesquelles ils peuvent gagner de l'argent, mais le reste, ils vont laisser au public. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut garder, donc voilà, on veut garder l'enseignement, surtout l'enseignement initial, professionnel, public.
Public. Et vous, les jeunes, vous voyez le fait que le ministère pousse que ce soit des organismes privés, vous voyez ça comment, en fin de compte? Allô?
Oui, pardon.
Oui. Je demandais comme question, en fin de compte, est-ce que vous avez l'impression que le ministère se dégage un peu, en fin de compte, en envoyant les jeunes vers des dispositifs d'accompagnement faits par des organismes privés?
Oui, complètement, parce que pour nous, le droit à l'éducation, il doit être garanti par le service public. Donc, quand on renvoie les élèves vers du privé et qu'on demande au privé et qu'on leur fournit des recommandations, généralement, ça marche pas. Sur une situation analogue qui s'est passée récemment, c'est pas mon domaine de spécialité, mais on a bien vu que le gouvernement avait encouragé les entreprises à favoriser le télétravail. Pour autant, en fin de compte, c'était les entreprises qui restaient libres de l'organiser et l'organisaient rarement. Donc, quand on nous dit que le ministère dialogue avec des organismes privés, justement, dans ce cadre-là, nous, on ne croit pas que ça puisse apporter de vraies solutions Et on pense qu'il n'y a que le service public qui peut apporter ça. Et un service public fort et pas démantelé.
D'accord. On va peut-être parler maintenant de Parcoursup. Hein. Donc, il est mis en place déjà, je crois, depuis 2-3 ans. Hein. Ça doit être sa troisième année, hein, sa troisième édition. Il est toujours autant critiqué. Donc, toutes les formations reconnues par l'État figurent sur la plateforme, à l'exception de Sciences Po Paris et certaines écoles d'art qui ne sont toujours pas... Donc, sur cette plateforme, cela va permettre de choisir 600 nouveaux cursus pour un total de 15 300 formations. Est-ce une amélioration avec un choix plus abondant? Et cela va-t-il entraîner moins de jeunes sans affectation à la fin du mois?
Alors, je me permets d'abord de vous corriger parce que Sciences Po Paris a rejoint la plateforme Parcoursup cette année.
C'est bien, parce que moi, j'étais restée là-dessus, voilà.
Non, Sciences Po Paris a rejoint la plateforme Parcoursup cette année. Et c'est vrai que du coup, ça a un peu chamboulé les choses, puisqu'il y a eu beaucoup plus de candidats à Sciences Po Paris. Donc, ça, on peut s'en réjouir hein, pour dire qu'au final, ils rejoignent le système national.
Mais c'est très bien.
Ça peut permettre à plus de personnes d'accéder à Sciences Po Paris. Or, il s'avère que les modes de sélection offerts par l'algorithme Parcoursup, on ne les connaît toujours pas. Du coup, on ne sait toujours pas comment sont choisies les personnes pour aller en IEP, ou à Sciences Po, ou même dans les facultés générales. Dans les...
Oui, ouais, c'est ça qu'il faut dire, tu as raison, parce qu'on ne connaît pas ce qui est pris en compte, alors surtout là avec le Covid, parce qu'on l'a mis au féminin maintenant, la Covid-19, est-ce qu'ils vont prendre en compte que les épreuves en continu et les appréciations des professeurs, ce qui m'étonnerait un petit peu. Et à mon avis, il va falloir faire connaître les algorithmes quand même au public si on veut qu'il y ait, que les jeunes puissent remplir correctement le dossier.
Mais c'est vrai que c'est un moment qu'on le demande. Hein. Ça fait depuis que la loi ORE est passée qu'on demande à ce que les algorithmes soient... qu'on puisse avoir une transparence sur comment, sur quels critères ils sélectionnent. Et c'est vrai que là, en plus, il y a eu un truc inquiétant, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'établissements privés qui rajoutaient dans les dossiers Parcoursup que les élèves ont eu cours en permanence, en présentiel.
Oui, il y a énormément de choses comme ça.
Du coup, ça favorise les établissements privés par rapport aux établissements publics qui ont eu moins de cours en présentiel sur Parcoursup.
D'accord. Jackie, tu veux dire quelque chose?
Il y a énormément de choses au niveau privé, mais aussi au niveau établissement public qui l'ont fait aussi.
Il y a eu
justement, c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure. On dit le privé, mais les établissements publics sont. Il y a aussi une inégalité dans les établissements publics. Donc une sorte de concurrence qui s'est établie dans les différents établissements publics de ce côté-là.
Mais ça, au final, c'est un peu ce qu'a introduit la loi ORE avec Parcoursup. C'est une concurrence entre les élèves, une concurrence entre les établissements scolaires. Et c'est totalement inadmissible d'avoir une telle concurrence qui est une concurrence qu'on peut comparer au système d'entreprise. Enfin, on a libéralisé les lycées. Au final, on se retrouve avec des concurrences limites économiques entre chaque lycée par rapport au taux de réussite. Enfin, c'est absurde. C'est totalement absurde.
Et ça, c'est la problématique aussi des... Moi, ce que je viens d'apprendre hier soir, là, et ce qui m'inquiète énormément, c'est la problématique des options qui ont été mises il y a peu de temps dans les lycées et qui, en définitive, disparaissent peu à peu.
Tout à fait. En plus, on a des lycées...
Donc là, ça va être un sentiment d'inégalité d'un lycée par rapport à un autre. Donc ça va... Les gens qui pourront pas, malheureusement, qui avaient des possibilités d'avoir des options intéressantes près de chez eux, malheureusement, ça va être inégalitaire parce que...
Il faudra aller plus loin.
Voilà.
C'est ça.
Donc ça va aller... et là, c'est du public, hein, c'est pas du privé.
Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que sur les options, on a beaucoup de disparités dans les académies où il y a des établissements qui avaient beaucoup d'options qui s'en retrouvent avec aucune parce qu'il y a un manque de financement du ministère et des collectivités. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec de moins en moins d'options et les options se raréfient dans des établissements plus, disons, prestigieux et qui ont
Bien
tendance
sûr.
À être réservés plus à une élite.
C'est ça. Et justement, je parlais avec un professeur, effectivement, de BTS Pro. Il me disait, au niveau de Parcoursup, les bacs pro, et ça, tu vas pouvoir nous le dire, oui. Mohamed, ont vraiment du mal à se retrouver dans les études supérieures et aller en BTS Pro. Justement, c'est dû à tous ces algorithmes qui sont demandés lors des vœux de Parcoursup.
En fait, deux mots sur, parce que deux mots sur le Parcoursup. Moi, je pense que l'objectif du Parcoursup, c'est un objectif de dispatching, c'est-à-dire que dispatcher sur seulement les élèves suivant leur arrivée. Et deuxièmement, c'est orienté. Donc moi, donc avec mon syndicat, donc on a discuté de ça. L'objectif principal, c'est que les élèves de bac pro, certains, ils s'orientent seulement vers le BTS. Les élèves de lycée technique plutôt vers les DUT, ce qu'on appelle maintenant les bachelors, et les élèves d'enseignement général et scientifique vers bien sûr les grandes écoles et les universités. Mais par contre, donc il faut pas savoir que il faut pas voir le Parcoursup comme c'est pas le logiciel lui-même qui décide. Lui, il oriente. Mais par contre, ceux qui vont décider du choix des élèves. Admettons, vous avez, je sais pas, moi je prends un exemple, vous avez certains élèves de bac pro qui demandent un BTS, vous avez tous les dossiers qui demandent, je sais pas moi, un BTS au lycée Marie Curie par exemple, tous les dossiers vont être, ils vont arriver au lycée Marie Curie, mais c'est une commission ici Marie Curie qui va décider du choix des élèves dans cette discipline-là. Oui. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que c'est Parcoursup qui va décider à la place des profs. Mais en fait, je prends de l'autre côté, peut-être, Sciences Po, c'est pareil. Sciences Po, quand ils vont avoir une pile de dossiers qui arrivent chez eux, c'est eux-mêmes qui vont créer une commission qui va décider qui va venir à Sciences Po. C'est pas Parcoursup, au contraire, c'est un barrage pour certains élèves. C'est pas permettre à certains élèves d'aller à Sciences Po. C'est le contraire, c'est plus sélectif. Moi, je prends ma classe parce que j'ai une classe de bac pro. Certains élèves, c'est vrai, ils ont déjà une orientation sur des BTS. Un exemple, BTS d'électrotechnique, maintenance, régulation, et ainsi de suite. D'autres, ils choisissent des BTS comme technique commerciale, et ainsi de suite. Ceux-là, ils sont affectés. Mais vous avez d'autres qui ont un bac, malheureusement, ils n'ont pas d'affectation. On se retrouve, si vous voulez, à la rentrée de l'année prochaine avec des élèves qui n'ont pas d'affectation dans des BTS ni dans des universités, se retrouvent au lycée. Et le Greta les reprennent, ils leur font une année pour repartir et faire donc, des enseignements généraux et repartir l'année prochaine peut-être pour retrouver,
vraiment une
formation. Ils perdent une année alors qu'ils ont un bac. Oui, donc c'est un peu ridicule de faire ça. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi dans le Parcoursup, c'est que certains élèves qui n'allaient pas dans certains BTS, ils arrivent dans ce cas-là à faire la demande à certains BTS et ils sont acceptés. Et ils disent que, par exemple, les élèves de bac pro sont prioritaires en BTS, les élèves de lycée technique sont prioritaires en DUT et bachelor, et les élèves d'enseignement généraux et scientifiques sont prioritaires dans les universités, les grandes écoles, et ainsi de suite.
Voilà, en général, les élèves qui se trouvent sans affectation pendant le mois de juillet, automatiquement, c'est l'inspection académique, de Beauvais, qui va s'occuper de leur trouver une affectation.
Le Parcoursup, vous savez, la technique très simple. Vous avez une affectation, vous acceptez ou refusez. J'ai par exemple des élèves qui sont partis en apprentissage à Promio, par exemple, où ils ont tout refusé.
Ils ont tout refusé,
donc,
bien sûr.
Donc ceux-là, ils vont à Promio. Mais par contre, vous avez certains élèves, même au mois de septembre, ils n'ont pas d'affectation. Ils n'ont pas d'affectation. Donc ce qu'on fait pour ces élèves-là, il y a ce qu'on appelle le Greta, ils le reprennent pour refaire un soutien scolaire. Voilà. Il y a des élèves qui se retrouvent sans affectation. C'est pas parce qu'il y a un parcours sup que tous les élèves vont trouver une affectation.
Donc, et voilà. Justement, mais l'inspection académique, l'éducation nationale a dit que cette année, ils allaient, même déjà l'année dernière, il avait dit qu'il n'y aurait pas d'élèves sans affectation.
Et moi, je dirais c'est faux. Parce que moi, on se retrouve avec des élèves qui n'ont rien au mois de septembre. Ils reviennent me voir, monsieur Assempti, voilà.
Mais le problème, qu'il y en a beaucoup, justement, qui arrêtent les études et qui cherchent un emploi. Je voulais demander à Mathis. Mathis, toi, tu as quelque chose pour l'année prochaine ?
Alors moi, j'ai été accepté en licence de droit à Chambéry et à Grenoble, donc deux villes qui sont pas loin de mon lycée, mais c'est vrai que moi j'attends quand même beaucoup de vœux qui sont en attente, puis j'ai des camarades dans mon lycée qui ont toujours pas reçu de vœux, qui ont tous leurs vœux en attente, donc c'est quand même assez inquiétant, mais ce système de sélection, il a été mis en place pour la simple et bonne raison que ça fait des années qu'on refuse de financer plus l'enseignement supérieur, qu'on refuse d'investir dans l'enseignement en France, et on se retrouve dans une situation à devoir faire des choix, à devoir faire de la sélection au lycée pour l'université, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
Il y a quand même 20 ans, il y avait moins d'élèves qui allaient aussi vers des études supérieures.
Mais bien sûr, mais après, ça c'est un problème où le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas suivi la demande. Donc forcément, quand on a un ministère de l'Enseignement supérieur qui refuse d'investir, qui ne suit pas la demande, qui est une forte demande, hein, n'est-ce pas, pour les universités, si la demande ne suit pas l'offre, c'est sûr qu'il y a un problème et on est obligé de faire la sélection.
Bien sûr. Et vous, au niveau de votre mouvement national des lycéens, vous poussez, en fin de compte, au niveau de Parcoursup, qu'est-ce qu'il manque exactement, en fin de compte, pour que les élèves puissent avoir des affectations, quoi, tous les élèves? Est-ce que vous allez voir M. Blanquer, c'est Mme Vidal aussi? Est-ce que vous écrivez à ces gens-là? Est-ce que vous essayez de les rencontrer sur des plateaux télé, par exemple?
On a essayé, hein, à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'ils semblent rester de marbre. Moi, je pense que, déjà, les deux premières mesures d'urgence à mettre en place avec Parcoursup, c'est un plus de transparence, parce que c'est vrai que Parcoursup, c'est un système opaque. Beaucoup de gens, beaucoup de nos camarades n'y comprennent pas grand-chose. Et y compris nous, en fait, hein, même nous, on a du mal à s'y retrouver. Et la deuxième chose importante avec Parcoursup, c'est évidemment plus de moyens, c'est indirectement lié à Parcoursup, c'est plus de moyens dans les universités, parce que, en réalité, Parcoursup, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Mais est-ce que c'est pas trop aussi dans la précipitation?
Comme on le disait tout à l'heure, c'est ça le vrai problème.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de précipitation à chaque fois, chaque année, dans Parcoursup? Parce qu'il faut faire à tout prix, à une certaine date, à que ce soit fini, quoi.
Et puis, est-ce qu'il y aurait des formations qu'il faudrait peut-être ouvrir pour les métiers d'avenir, du futur? Je pense que là aussi, on est un peu bloqué pour ça, hein, en France. Non?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver d'ici quelques temps, et donc, il n'y a pas de formation pour ça.
C'est vrai que ça, en France, on a du mal, en tout cas, à essayer de chercher à investir dans les nouvelles formations et à donner la place à des nouvelles formations qui n'existaient pas avant. Et ça, en France, on se fait devancer par le privé. C'est vrai que les établissements privés ont compris ça et qu'il fallait peut-être investir dans de nouvelles formations et qu'il fallait rechercher et développer de nouvelles formations. Et c'est vrai que le public, on a du mal, faute d'investissement aussi, hein, à suivre cette coche de nouvelles formations.
Mais comme la formation robotique, hein, on a du mal à trouver des formations robotiques en France. Alors je crois qu'on me fait signe qu'il faut que j'arrête de parler.
Voilà, donc on va demander un petit mot de conclusion rapide à Antonin et à Mohamed.
Antonin, tu commences, et Mathis?
Alors moi, c'est Mathis. Moi, je voudrais juste dire qu'en tout cas, sûr qu'on a été une année terrible, où on a une perte d'horizon d'avenir et que c'est catastrophique et qu'on manque toujours d'informations du part du ministère de l'Éducation nationale et qu'on demande que ça, de l'information et des perspectives d'avenir.
On va lui envoyer cet enregistrement à Monsieur Blanquer.
Et pour rapidement rebondir sur ce qu'a dit Mathis, effectivement, un manque de transparence. Donc nous, ce qu'on voudrait, ce serait pouvoir discuter, parce qu'on ne veut jamais avoir, ils ne veulent jamais parler avec les lycéens, notamment avec les syndicats lycéens, et ils s'enferment toujours avec certaines instances obscures qu'aucun lycéen ne connaît. Donc voilà, c'est de la transparence et de la discussion.
Mohamed.
Oui, donc là, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Moi, je suis en fin de carrière. Moi, je souhaite que, par exemple, parce qu'en fait, au niveau lycée, je parle de lycée d'enseignement professionnel, il faut défendre le lycée professionnel public. Et cette année, par exemple, je prends le budget du LP, le lycée Marie Curie, a été réduit de 11 000 euros par la nouvelle, majorité régionale. Et certaines activités qu'on faisait avec nos élèves, les projets que je vous ai montrés ici, par exemple, comme la classe d'eau, nous, on faisait plein de projets avec l'ancienne majorité. Et là, ils ont tout coupé. Un exemple très simple, on parlait des métiers, de l'orientation aussi, parce que ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'on avait ce qu'on appelait à une époque le printemps de l'industrie. On faisait visiter tous nos élèves, les industries. Là, cette majorité a coupé tout. J'espère que ça va changer. Merci beaucoup.
On espère que vous allez tous être entendus. Hein.
Alors, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement tous nos invités. Cette émission Pédago Rando sera diffusée le vendredi 11 juin à 19h, le lundi 14 juin à 16h30, le samedi 26 juin à 17h et le mercredi 30 juin à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera « Ouvrons nos écoles à la culture, aux arts ». Merci à Luc, à la technique et à bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un bon et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dire à bande de feignants. Alors...